Session de philosophie sur la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le
11 mars 94.
Première conférence.
Je crois que c'est bon, puisqu'on est beaucoup, de s'aider les uns les autres à garder le silence. Ça aide à mieux réfléchir. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous aider pour la vaisselle ou pour la mise du couvert, parce qu'on n'est pas dans le couvent, on n'est pas énormément de frères. Voilà, donc on vous mobilise pour faire partie de la famille pendant le week-end. Puis cet après-midi, vous verrez, il y aura une heure un peu particulière parce que certains frères travaillent à l'étage d'en dessous sur le problème de la philosophie et de la psychologie. Alors il y aura une heure particulière cet après-midi qui sera consacrée à ça, sur lequel on posera un peu des questions au père Philippe sur les deux regards sur la personne humaine, celui du psychologue et celui du philosophe.
Merci.
Profitez-en.
Ceux qui sont habitués à venir savent ce que représentent ces sessions philosophiques dans un milieu monastique. Je sais que certains trouvent ça curieux. Si on est dans la grande tradition philosophique, on sait que certains problèmes ne peuvent être compréhensibles que dans un certain climat de prière. Il ne faut pas croire que c'est propre au christianisme. Les néoplatoniciens, Plotin, qui est le grand néoplatonicien, n'hésite pas, quand il est devant un problème difficile, arrêtons-nous et prions les dieux. Je vois pas très bien ça en Sorbonne. Mais c'est peut-être dommage. Et c'est même sûrement très dommage. Parce que la philosophie n'a de sens que si elle est sagesse. Autrement, elle n'a pas de sens. Il vaut mieux la psychologie. Il vaut mieux les mathématiques. Il vaut mieux l'art. Et c'est vrai, cela. Or, qui dit sagesse, dit que l'homme découvre ce pourquoi il est fait. Et le philosophe est engagé lui-même dans son discours philosophique. Le discours philosophique est un discours personnel. Si le philosophe a un discours philosophique et une vie complètement différente de son discours philosophique, je crois qu'il n'enseigne pas la vérité. Terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est la grandeur du discours philosophique. C'est qu'il relève d'une sagesse. Et la sagesse engage tout l'homme. De sorte que il est normal que quand on touche des sujets aussi importants que la personne, la découverte de l'existence de Dieu, de l'être premier, le problème de la création. On ne peut être vrai d'une vérité pratique et d'une vérité spéculative que si il y a un certain climat de prière. Ceux qui croient dans le Christ se trouveront à l'aise. Ceux qui doutent, je les laisse douter. Je ne veux pas du tout leur dire « Vous n'êtes accepté ici que si vous ne montrez pas de blanc. nos amis. Ceux qui cherchent la vérité sont nos amis. Parce que il y a quelque chose de commun dans tout homme qui cherche la vérité. Et on doit tout le temps revenir à cela. Ce n'est pas les conclusions qui sont importantes. C'est le désir fondamental de notre cœur qui met une unité dans le climat de recherche. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez, parce que les conclusions, c'est pas fait au plan philosophique pour se reposer. Et quelquefois, on possède des conclusions philosophiques. Et on se repose. C'était Merleau-Ponty qui disait cette phrase qui m'a toujours terrifié. Je n'aime pas de parler aux catholiques parce qu'ils savent. Et pour lui, la philosophie était une recherche. Et c'est vrai, la philosophie est une recherche sapientiale, une recherche ultime. Alors Merleau-Ponty allait très trop loin quand il disait ça, parce que un vrai catholique, il n'a pas de conclusion, puisqu'il remonte à la source. Et c'est vrai, un vrai catholique remonte à la source. Et la source, c'est la découverte du Créateur. Et quand on découvre le Créateur, c'est pas une conclusion, hein. Puisque le Créateur, c'est celui qui est source de tous les commencements. C'est ça qui est merveilleux. Il est source de tous les commencements, de tous les renouveaux. Et donc, découvrir le Créateur exige de nous remettre tout le temps radicalement en cause pour laisser tomber tous les faux a priori et redécouvrir ce qu'il y a de plus grand en nous qui nous lie au Créateur. C'est ça la très grande difficulté de la recherche philosophique. Que ça nous oblige d'être tout le temps dans ce renouveau. Et je vous affirme, hein, ça je peux vous le dire et témoigner de cela. J'enseigne la philosophie depuis 1939. Là je suis imbattable. Après, j'ai ça comme originalité. C'est déjà quelque chose. J'en cherche pas d'autres. Avec des moments plus ou moins forts, c'est évident que la guerre était une certaine rupture, sans être une rupture, pas pour le philosophe. Quand on vit la guerre, on doit réfléchir ce que c'est que la guerre. Le mal terrible de la guerre. Les hommes qui s'entretuent. Alors qu'ils sont faits pour s'entendre, s'aimer. Et le philosophe doit le dire. Eh bien, depuis 1939 jusqu'aujourd'hui, et j'ai jamais enseigné autant la philosophie que maintenant, parce que enseigner la philosophie dans un milieu monastique, dans un milieu religieux, l'enseigner à ses frères, c'est vraiment retrouver ce que c'était que l'enseignement d'un Plotin, l'enseignement d'un Aristote, un enseignement comme Platon. Voilà la différence. J'ai enseigné à Fribourg, qui pourtant était une petite université où l'on pouvait connaître tous ses étudiants, mais c'était quand même quelque chose d'universitaire. Tandis que quand l'enseignement peut se faire dans un milieu familial, philosophie, c'est la suppression de tous les a priori. Il y en aura tout le temps qui repousseront. Les a priori politiques, les a priori sociologiques, les a priori psychologiques, tous les a priori. On supprime le plus que ça et on cherche la vérité. On éveille son intelligence. C'est un éveil constant d'intelligence. L'intelligence est de l'amour. Parce que pour rechercher la vérité, il faut aimer la vérité. Alors ça, c'est plus difficile. Parce que pour aimer quelque chose, il faut le connaître. Alors où est-ce qu'on en est dans la recherche de la vérité? Quelquefois, il y a très peu de choses. Mais on l'aime quand même, parce qu'on sait que c'est grand. Et si on est chrétien, c'est facile. Puisque Jésus est la splendeur de la vérité. Il est la vérité dans sa splendeur. Alors c'est plus facile, parce que la splendeur montre la beauté de la vérité. Et pour nous, la vérité n'est pas toujours belle. Nigra sum, cette formosa, c'est quelquefois nigra sum. C'est quelquefois comme ça la vérité. Parce que la vérité qu'on découvre, elle est toute terreuse. Elle est remplie des opinions des hommes. Et c'est vrai, elle est remplie de toutes les opinions des hommes. Et les opinions des hommes, c'est pas la splendeur. C'est une démarche d'un enfant à quatre pattes. Il y a des philosophes qui restent à quatre pattes toute leur vie. Et quelquefois à mille pattes. Ils sont un peu rampants. Ils cherchent la vérité, c'est déjà quelque chose. C'est déjà très bien de chercher la vérité. On les aime. Les mille pattes, vous voyez, c'est lourd à s'élever. Alors, on va attaquer un sujet capital aujourd'hui, je crois. C'est la gare de triage de la philosophie. C'est intéressant, la gare de triage. Surtout avec les TGV. La gare de triage. C'est-à-dire, là, on voit toutes les directions. Et c'est vrai. Ces lieux où on voit toutes les directions. Je crois que le problème de la personne humaine, je ne dis pas que c'est la synthèse, parce que je ne crois pas qu'il y ait de synthèse philosophique. Il y a des moments où on essaie de voir les nœuds. J'aime mieux dire que c'est un nœud. C'est-à-dire le moment où le philosophe essaie de revenir à l'expérience magistrale de toute sa vie. L'expérience magistrale de toute sa vie, c'est le « je suis ». On reviendra tout le temps là-dessus. « Je suis ». Évidemment, on peut dire « je suis » comme ça. C'est quand même très curieux. Celui qui respecte, et le philosophe doit respecter les grandes traditions religieuses. Un philosophe qui ne respecte plus les traditions religieuses, forcément, il y a un a priori. Je fais partie de l'humanité. Et dans l'humanité, il y a une grande tradition religieuse. La tradition judéo-chrétienne, c'est quand même une tradition celle-là. Il y en a d'autres, hein. Je ne veux pas effacer les autres. Il y en a d'autres, mais nous sommes en Occident. Il faut aller voyager en Orient. C'est intéressant, mais c'est pas la même chose. Hein. On est nés, la plupart d'entre nous, pas tous, hein. Il y en a qui font un effort énorme d'Orient de venir en Occident, c'est pas commode. grande crise, où toute l'humanité est en état de crise, on le sait bien, crise violente, crise momentanément pacifique, mais crise à cause de ce déséquilibre si radical qui existe dans l'humanité d'aujourd'hui, au point de vue économique, au point de vue de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? C'est toujours au fond la question du philosophe. Hein. Si on fait de la philosophie, c'est pour savoir ce que c'est que l'homme. La première rencontre que j'ai faite avec le Saint-Père, avant qu'il soit pape, bien heureusement, c'est plus difficile. Quand il était cardinal, il m'a demandé, pourquoi faites-vous de la philosophie ? J'ai dit, pour connaître ce que c'est que l'homme. Alors il m'a dit, moi aussi, j'ai fait de la philosophie, je continue d'en faire, pour ça. Parce qu'il faut au moins qu'il y ait quelques personnes qui cherchent à savoir ce que c'est que l'homme. Et la première rencontre que j'avais faite, pas la première, mais une des rencontres que j'ai faites avec, au moment des prêtres ouvriers, où ils étaient très très durs. C'était au Carmel de Limoges. Je prêchais et eux venaient chaque semaine avoir un repas à 5. Et la mère prieure m'avait dit, est-ce que ça vous dérange de prendre votre repas avec eux ? Je dis, oh, pas du tout, au contraire. Non, j'étais en dominicain, eux étaient en ouvrier. Ils m'ont tout de suite posé la question, qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, j'enseigne la philosophie à l'université de Fribourg. Quelle philosophie ? J'ai dit, mais quoi, vous posez la question, quelle philosophie ? Mais il n'y en a qu'une philosophie. Alors ils m'ont regardé. Mais il n'y en a qu'une. Savoir qu'est-ce que c'est que l'homme. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais philosophiquement, c'est la seule chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Je dis, comme vous, pourquoi êtes-vous prêtre ouvrier ? Pour savoir ce que c'est que l'ouvrier, hein. C'est bien ça. J'ai connu le premier prêtre ouvrier. C'était un ami. Et je le dirigeais. Je me regardais avec étonnement, parce que j'avais la source au moins, moi. Et je ne l'avais plus. Alors j'ai dit, mais si vous voulez savoir ce que c'est que l'ouvrier, il faut savoir ce que c'est que l'homme. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'ouvrier si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme. Là, je les tenais, vous voyez. Et je leur pouvais refaire une leçon philosophique. Et alors ça faisait un intérêt énorme à ce repas. Plus les discussions sociologiques, non, chose de bien plus profond, qu'est-ce que c'est que l'homme ? On ne pourrait pas savoir. Alors ils m'ont, au bout d'un certain temps que je parlais, ils m'ont dit, mais ça doit être bien intéressant cette philosophie. Je dis, mais je comprends. Autrement je ne l'enseignerais pas. Parce qu'il y avait eu un professeur au Sochoir, chez les Dominicains, quand il est passé d'étudiant au professeur, il a dit, j'en ai bavé, ils en baveront. C'était la définition du professeur. Vous comprenez ? Dire ça du professeur, être une cause de faire baver les gens, c'est pas drôle. Hein ? Parce qu'alors on bave au carré, c'est pas drôle du tout. Et puis j'ai expliqué. Et puis une fois que j'ai bien expliqué, j'ai dit, oui, alors à ce moment-là, vous voyez, je peux vous dire que j'enseigne la philosophie de Thomas d'Aquin. C'est ça que vous auriez voulu que je dise. Eh bien oui, j'enseigne la philosophie de Thomas d'Aquin en cherchant ce que c'est que l'homme. Parce que pour Thomas d'Aquin, chercher c'est ce problème-là auquel on revient tout le temps. Chercher ce que c'est que la personne humaine, c'est chercher qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis. J'existe. Et je sais quand je dis je suis, j'ai une expérience que je suis seul à avoir. Parce que vous vous dites je suis aussi, mais votre je suis n'est pas le mien. Je suis unique au monde, dans notre monde, à dire je suis. C'est quand même intéressant ça. Hein, c'est original, moi, de dire ça. Je suis. Vous voyez, Descartes avait raté son système quand il avait dit cogito ergo sum. Mais il avait senti ça. Il avait senti ça. Et Aristote aussi. Mais ils l'avaient senti l'un et l'autre de façon très très différente. Parce qu'aujourd'hui on parle de la philosophie européenne, c'est intéressant de voir que la philosophie européenne, de fait, va impliquer la philosophie au point de départ. Une philosophie enveloppée de la théologie. Une théologie gardienne de la philosophie. Et quelquefois trop gardienne. Comme une mère captative. Le théologien a été une mère captative à l'égard de la philosophie. D'où la révolte de Descartes. Est-ce qu'on est obligé de s'appuyer sur le théologien pour avoir une certitude? Est-ce qu'on est obligé de s'appuyer sur le théologien pour faire de la philosophie? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la philosophie indépendamment de la théologie? Si les théologiens avaient été plus contemplatifs, si les théologiens avaient recherché plus la vérité, si la scolastique n'avait pas été une scolastique dégringolant dans la logique, l'homme philosophe n'aurait pas éprouvé le besoin de se libérer de cette maternité captative. Il aurait été à l'aise créant une amitié avec la mère. Mais quand la mère est trop captative, et la théologie a été terriblement captative, il faut bien le reconnaître. En dehors de la théologie, pas de vérité. Ça, c'est captatif. On connaît la fameuse phrase. En dehors de l'Église, pas de salut. On connaît ça. Est-ce que c'est pas ça, être trop captatif? Jésus n'a jamais dit ça. Devant le jeune homme riche, qui l'interroge, il lui dit ce qu'il faut faire. Et il est triste de voir le jeune homme riche partir triste. Mais il le laisse partir, attendant qu'il comprenne, comme l'enfant prodigue, il a attendu. On ne peut pas assommer les gens de la vérité, puisque on doit être possédé par la vérité, donc il faut que la vérité nous possède, nous prenne, et que nous offrons cela. Vous voyez, si je regarde l'histoire de la philosophie européenne, c'est quand même intéressant. Et c'est vrai, on assiste à quelque chose d'intéressant à ce point de vue-là. On a l'impression qu'il y a un terme. Qu'est-ce que sera ce terme? Je ne sais pas. Et Heidegger l'avait déjà saisi, ça. On assiste à un terme, ce développement de la philosophie européenne, qui aboutit maintenant à on ne sait plus trop quoi. Après Hegel, on a l'impression qu'il y a une espèce d'éclatement dans tous les sens. Et on ne sait plus très bien pourquoi on fait de la philosophie. On ne sait plus très bien ce que doit être la philosophie. Il y a une espèce d'éclatement. Alors, on doit regarder cela, et on voit très bien. philosophie à l'Institut catholique de Paris. La dernière année avant de prendre son congé. La dernière année a posé le problème ouvertement. Y a-t-il deux métaphysiques ? Y a-t-il deux philosophies ? La philosophie réaliste d'Aristote, la philosophie cartésienne de Descartes qui aboutit à Hegel, la philosophie de l'esprit, la philosophie de l'être et la philosophie de l'esprit. C'est une très bonne question. Et c'est la question nécessaire si on veut être européen. Y a-t-il deux philosophies ? Et j'allais dire la réflexion nécessaire si on veut aller jusqu'au bout, au point de vue philosophique. C'est très vrai que la philosophie a commencé par le réalisme de l'être. La grande difficulté grecque, le devenir et l'être et le devenir, qui reste une question radicale. Et puis, ce point de départ de la philosophie de l'esprit, qui veut par la philosophie de l'esprit découvrir l'autonomie de la philosophie en opposition avec le carcan, quelquefois un peu terrible, des théologiens. Le théologien qui s'impose, qui parle avec l'autorité de Dieu. Et donc, qui d'une certaine manière ne cherche plus la vérité. Le mauvais théologien. Le théologien qui est captatif de la vérité. Alors à partir de là, philosophie de l'esprit pour retrouver une certitude, pouvoir se libérer de la théologie. Descartes, Hegel et la philosophie hegélienne est une forteresse imprenable. Et c'est une forteresse telle qu'après, il y a la diaspora dans tous les sens. On a quitté la théologie captative pour tomber de Carrie Rossilla, pour tomber dans le système hegélien. Parce qu'il est né de la tyrannie. devient tyran. Comme la mère n'est plus mère quand elle est une mère captative. Et la réaction se comprend. Et la réaction est très violente. Et fait que l'esclave, devenu dialecticien, s'impose avec plus de force. Alors, entrons dans ce problème de la personne qui peut-être seule permet de comprendre le lien entre philosophie de l'être, philosophie de l'esprit. Je crois que c'est le je suis, l'expérience du je suis, vue dans la lumière d'une philosophie première, d'une métaphysique, qui peut seule me faire comprendre comment la philosophie de l'être aboutit à la personne qui implique la philosophie de l'esprit. Et comment, si je pars de la philosophie de l'esprit, je ne peux pas rejoindre l'être. Il y a ce double mouvement qui est très important à comprendre. De l'être, je découvre le je suis. Tandis que si je pars du je suis, je ne découvrirai pas l'être. Si je pars du je suis, pris dans l'esprit, pris comme philosophie de l'esprit. Autrement dit, ou le primat de l'idée, ou le primat de l'être. L'être est plus pacifique que l'idée. L'être est plus magnanime que l'idée. L'être s'accomplit dans l'esprit. C'est vrai. L'esprit, un être spirituel, existe. Il est spirituel. Tandis que si je pars de l'esprit, j'ai beaucoup de peine à saisir la place de ce qui est de l'être. Gilson avait très bien compris ça à sa manière quand il montre que le problème fondamental, c'est toujours être intelligence ou intelligence et être. Est-ce que l'être détermine l'intelligence? Est-ce que l'intelligence détermine l'être? C'est la même chose. Dit autrement, dit d'une manière peut-être plus critique. C'est un fait, alors, maintenant commençons. C'est un fait que le problème de la personne est peut-être un des problèmes les plus intéressants pour comprendre les différents moments de la philosophie en Europe et aussi en Orient et aussi en Amérique. L'Amérique, c'est un succès d'année de l'Occident. Son originalité, c'est évident, quand je dis succès d'année, comprenez bien ce que je veux dire. Je ne veux pas dire du tout que c'est une répétition, non. Mais elle provient de l'Occident. L'Orient a gardé son caractère particulier. Et dans l'Orient, on sait très bien qu'on retrouve des problèmes très analogues. Olivier Lacombe, que je connais bien, que je connaissais très bien, prostasis. C'est un des mots les plus extraordinaires dans la philosophie grecque. Le mot hypostasis pour Aristote, fils de médecin. Hypostasis, hypostase, hein, traduisez en français, si ça vous dit plus. Hypostase, hypostasis, ce qui est en dessous, hypostasis. Alors Aristote dit le dépôt d'une eau sale, le dépôt de l'urine, c'est très curieux, hypostasis. Et ce mot, en philosophie de néoplatonicien, est devenu le mot, le sommet des trois hypostases. L'un, le nous, l'intelligence, et l'âme. C'est très extraordinaire. Hein? Alors voyez, si vous regardez philologiquement la signification du mot, vous avez de quoi rire. Hein? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et le plus petit que soi, c'est le dépôt de l'eau sale. C'est le plus petit que soi. Parce qu'on n'a pas besoin de l'eau sale, on a besoin de l'eau propre. Et bien même l'eau sale a servi de fait à regarder l'hypostasis, le sommet. C'est très étonnant, ça. Le mot hypostase. Et donc, par le fait même, le mot hypostase, personne, a pénétré dans la théologie. Et c'est devenu un grand problème de la théologie. Et je crois, si j'avais un livre à écrire sur Thomas d'Aquin, ce que je voudrais bien, le théologien de la personne, c'est ça que je regarderais. C'est le théologien de la personne, contrairement à ce qu'on dit théologien de la nature. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est le théologien de la personne. C'est ça qui est original en Thomas d'Aquin. Et si on regarde tous ses écrits, historiquement, on voit le développement extraordinaire de la personne. Mais ce qui gêne Thomas d'Aquin, c'est qu'il n'a pas directement une métaphysique de la personne. Il doit faire une théologie de la personne sans avoir le support philosophique et métaphysique de la personne. Et ça, c'est très net. Donc le mot personne s'est développé en théologie chrétienne. Et on comprend très bien pourquoi. Puisque le mystère de la théologie chrétienne, c'est la simplicité absolue d'un Dieu unique et trois personnes dans cette simplicité. Comment la simplicité absolue de Dieu peut-elle être la maison, le lieu des trois personnes? Il peut y avoir trois personnes qui ne divisent pas la très sainte Trinité, qui ne divise pas la simplicité absolue de Dieu. Voyez, les deux pôles de toute la théologie de Thomas d'Aquin, c'est la simplicité absolue de Dieu, omnino simplex, tout à fait simple. Dieu est tout à fait simple. C'est la première question théologique de Thomas d'Aquin. Et le sommet, la paternité, le Père, qui est Père, et qui est tout entier relatif au Fils, c'est le Fils tout entier relatif au Père, dans l'unité, dans la simplicité, et tous les deux sont source de l'Esprit Saint. Je crois que c'est vraiment ça, les deux sommets de la théologie de Thomas d'Aquin. Et c'est dans la lumière de la simplicité et dans la lumière de la paternité que Thomas d'Aquin voit tout mystère du Christ, du Verbe devenu chair. Et c'est dans cette lumière-là qu'il voit l'homme, image de Dieu, reflet de sa simplicité et reflet théologique que le mystère de la personne s'est développé. Alors, le danger, vous voyez, c'est justement de ne pas respecter assez la personne humaine. Tout Descartes. Et le problème de la personne humaine ne s'est développé au plan philosophique que récemment. Ça a commencé par le point de vue politique, par le point de vue psychologique. Et je m'arrête parce que je vois qu'il y a une impatience saine. On a...
Session de philosophie sur la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe Arimont, le 11 février 1994, deuxième conférence.
Je vous disais tout à l'heure en terminant que de fait, le problème de la personne, de la personnalité, se repose aujourd'hui avec une très grande acuité, une très grande netteté. Et ce serait intéressant de voir comment ce problème s'est posé, tant du point de vue politique, en face de gouvernements tyranniques, dans quelle mesure un gouvernement politique doit respecter la personne humaine. Dans quelle mesure la personne humaine est-elle engagée dans le bien commun et dans le point de vue de l'action politique. Voyez, je prends la position de Mounier, la position de Maritain. Il y en a d'autres, mais Mounier est particulièrement intéressant. Comment, à partir d'un certain libéralisme, sauver à tout prix l'homme d'une tyrannie politique? Et comment découvrir dans l'homme ce qui est au-delà du bien politique, par où l'homme a une liberté radicale, au-delà de tout pouvoir humain. Ceci en opposition vis-à-vis d'un gouvernement comme ceux d'Hitler et ceux du marxisme. On voit très bien comment ces gouvernements, ces manières de gouverner, tout de suite posent le problème de la dignité de la personne humaine. Et ce que représente cette liberté de l'homme. Maritain, qui a réfléchi plus profondément à un point de vue philosophique, comme Mounier, tout en étant indépendant, ce Mounier. Maritain distingue individu et personne. L'individu fait partie de la communauté. La personne a une dignité tout à fait propre en raison de son esprit. Alors cette distinction individu-personne, qui est très nette dans le mystère du Christ. Dans le mystère du Christ, la personne du Christ, c'est le Verbe de Dieu. Et l'individu, c'est le corps du Christ formé en Marie par l'Esprit Saint. Ce corps uni à l'âme, par où le Christ est un individu. Il est un homme. Alors cette distinction que les théologiens ont beaucoup poussé. Maritain sincère, comme une lumière qui pourrait nous aider à mieux saisir comment l'homme émerge de la communauté politique dans sa dignité personnelle et comment l'homme est parti de la communauté. C'est intéressant, mais je crois que ce n'est pas exact. Ça, c'est autre chose. La critique viendra après, on reviendra là-dessus. Mais il s'est posé le problème avec beaucoup de netteté. C'est l'intérêt du reste de la position de Maritain. Il y a une autre position. Je ne veux pas entrer dans tout le problème, mais simplement poser ces questions-là. Et c'est au fond, en psychologie, que le développement de la personnalité a été le plus net. Là encore, je voudrais simplement citer ici la position de Charles Audier, comme j'étais en Suisse. Charles Audier avait une cote très particulière, et c'est vrai qu'il y a des problèmes très importants et très intéressants chez lui, au point de vue de la formation de la personne. Alors, je vous note simplement ce que lui-même dit et qui, je crois, reste un vrai problème pour nous au point de vue humain. Charles Audier part du moi personnel. Pas du je suis, mais du moi personnel. Le sentiment du moi et le sentiment du moi fort. Pour lui, il y a trois sentiments du moi fort. Le sentiment de sécurité. Le sentiment d'autonomie. Le sentiment de valorisation. Des maladresses, hein, puisque supporter son angoisse. Voilà, il faut arriver à trouver un autre moyen. Quand quelqu'un est dans l'aliénation, oui, vous êtes aliéné par rapport au milieu dans lequel vous êtes. Milieu externe, milieu interne. Vous n'avez pas votre autonomie parfaite, vous êtes aliéné. C'est vraiment le présent, ça. Et la culpabilité, c'est toujours le passé. J'ai fait des bêtises dans le temps. Je n'arrive plus à... C'est vrai, je suis disloqué dans tous les sens. Alors ça reste la culpabilité, et ça revient. La mémoire me remet toujours en face de ces culpabilités, ces bêtises que j'ai faites. Je ne pourrai jamais réparer ça. C'est idiot. Pourquoi je suis tombé alors que d'autres ont poussé sans tomber dans ces fossés? Et c'est vrai que ces six sentiments sont quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pas pour chercher une nombre 6, mais c'est comme ça. Il y a six sentiments du moins. Ils s'entrecoupent. Et je crois que là, nous trouvons quelque chose que nous pouvons tous. Vous voyez, les Chinois en Tatanpu datent les sept dimensions de l'homme. Alors il y a un pou psychologique, réflexion psychologique sur ce que je suis, et je trouve ces six dimensions. Tous, nous avons connu plus ou moins, l'angoisse. Nous avons connu ce que c'est que d'être aliéné. L'aliénation au sens psychologique. Tous, la culpabilité. On a tous fait des bêtises dans sa vie antérieure. Tous. Personne d'entre nous ne dit, moi je suis innocent. Ah, c'est facile. Je suis né dans l'autonomie, je suis né dans la valorisation. Tout ce que je fais, c'est parfait. Et puis, la sécurité, non. C'est mêlé. C'est très mêlé. Alors, il y a toujours une note dominante. Alors, il y aurait tout point de vue de la psychologie qui aboutit à la personne, au fond. La psychologie se noue autour de la personne. Et je crois que ces six sentiments du moi montrent bien quelque chose qui est réel au niveau psychologique. C'est le réel psychologique, le réel du vécu. Mon vécu. Alors il y a des moments où c'est beau ciel. C'est la sécurité, c'est l'autonomie. C'est... Et puis des moments où il y a l'orage qui pousse et qui monte. À ce moment-là, je reste pas trop. Et il faut bien se dire que la phénoménologie a parlé de la personne. Regardez la personne Jésus seul. La personne dans tout Max Scheler. Mais dans la philosophie réaliste, dite thomiste, dite scotiste, au fond, on n'a pas tellement traité la personne. On a beaucoup parlé du problème de l'individuation, du principe d'individuation. On n'a pas tellement parlé de la personne. Ça me frappe beaucoup. absolument la réalité phénoménale du Dasein. Le Dasein de Heidegger. Est-ce que ce n'est pas le problème de la personne? Dans le sens fort. Si vous regardez attentivement, vous voyez que c'est bien cela. Si vivement que l'on s'oppose à toute idée d'une substance de l'âme, à toute réification de la conscience, l'idée même de sujet continue de participer ontologiquement à la position d'un sujet hypocaïménon. Et il faudrait d'abord éclaircir la provenance ontologique de l'idée de chose avant d'en venir à se demander ce que l'on peut entendre positivement lorsqu'on parle de l'être non chosifié, du sujet, de l'âme, de la conscience, de l'esprit, de la personne. Ces divers concepts désignent tous des domaines phénoménaux déterminés et explorables. Mais leur application va toujours de pair avec une remarquable indifférence à toute interrogation sur l'être de l'étant ainsi désigné. Ce n'est donc pas par souci d'originalité terminologique que Heidegger évite l'usage des termes sujet, conscience, âme, esprit, personne, vie et homme, pour désigner l'étant que nous sommes nous-mêmes, mais par souci de vérité, c'est l'être de la personne qui m'intéresse. Oui, ça je crois que c'est très intéressant de voir qu'au fond le souci de Heidegger, en disant on n'a pas traité cette question-là, on l'a maltraité, on l'a pas vu du tout. C'est l'être de la personne humaine qui l'intéresse. Et quand il parle de l'oubli de l'être, je crois qu'en définitive, il veut montrer que l'oubli de l'être, c'est parce qu'on a oublié de regarder l'être de la personne. C'est l'être de la personne qui l'intéresse aussi, estime-t-il, que les interprétations qu'un Husserl ou un Scheller, si différentes soient-elles, donnent de la personnalité en ceci de commun qu'elles omettent de poser la question de l'être même de la personne. Donc, critique de Husserl et de Max Scheller par Heidegger, c'est que les deux, quand ils parlent de la personnalité, oublient l'être de la personne. Donc, le dépassement que Heidegger veut faire par rapport à Husserl, par rapport à Max Scheller, c'est justement de découvrir l'être de la personne. Je dis textuellement, là je cite Heidegger, pour Heidegger lui-même, la question fondamentale est celle de l'être du Dasein. Et ce qui déforme et égare la question fondamentale du sens du Dasein, c'est une dépendance constante à l'égard de l'anthropologie antico-chrétienne, dont les fondements ontologiques sont insuffisants. Cette anthropologie s'est établie à partir de la définition grecque de l'homme comme animal raisonnable et du principe conducteur d'ordre théologique fourni par la Genèse, créé à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image et ressemblance. Et la dogmatique chrétienne n'a jamais voulu poser le problème ontologique de l'être de l'homme. La question de l'être de l'homme a été oublié lorsqu'on s'est efforcé de déterminer personne qui a dit toute sa recherche. Alors ça, c'est très intéressant de voir ça. Parce que ça montre que lorsqu'il parle de l'oubli de l'être, en réalité, c'est l'oubli de l'être de la personne. On a laissé la personne au niveau anthropologique. Vous savez bien que le mot anthropologique est né dans l'histoire philosophique avec Kant. Et le mot anthropologique est né avec Kant au moment où Kant, au fond, critiquait la métaphysique de Wolff, alors qu'au début de sa vie, il l'avait accepté. Il la rejetait. Et donc, n'ayant plus de métaphysique, il se retourne sur une anthropologie. Et l'anthropologie ne remplace pas la métaphysique pour Heidegger. Ça perd de sens. Mais ce n'est pas l'ontologie fondamentale. Il faut découvrir l'ontologie fondamentale. Et découvrir l'ontologie fondamentale, c'est découvrir l'être de la personne, l'être de l'homme, et non pas du tout rester sur l'analyse grammaticale, l'analyse logique, animale, raisonnable. Donc il va aller plus loin. Donc, il faut répondre à Heidegger. Il s'agit de chercher quel est l'être de la personne. Je crois que c'est ça le gros problème d'aujourd'hui. Si on veut répondre à cette interrogation, si on veut voir ce qu'il y a d'intéressant dans toutes ces recherches psychologiques et voir les limites de ces recherches, si on veut répondre à Mounier, à Maritain, étant donné qu'on ne peut pas accepter que personne doit se préciser uniquement au niveau politique. La personne est antérieure au niveau politique. Elle est quelque chose de plus fondamental. Si je veux comprendre qu'il y a en chacun d'entre nous quelque chose qui dépasse le point de vue politique, il faut savoir quoi ? Au point de vue de l'être. Donc là, Heidegger soulève un véritable problème. Un problème qui demeure. Je continue de vous lire ce petit passage pour que nous voyons mieux. Dans la perspective de Heidegger, la détermination essentielle de l'homme s'exprime dans la fameuse formule « la substance de l'homme est l'existence » qui signifie ceci, la manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être. Et l'instance extatique dans la vérité de l'être. Vous avez tous compris, hein? Oui. C'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup Heidegger parce que on voit qu'il est obligé de torturer le langage pour pouvoir dire quelque chose de métaphysique. C'est admirable de voir la torsion de l'être. Vous voyez un arbre tordu par le vent. Par le souffle, il y a un tel souffle que... Alors, voyez, ça, c'est beau comme phrase. Hein. Évidemment, c'est une traduction. Alors, regardez-le en allemand, ça a encore plus de sens. La manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être, avec un grand T. Et l'être, comme ça, c'est pas Dieu. Hein. Quand on a dit que c'était Dieu, Heidegger a menti. Non, non, c'est l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'intelligence qui s'éveille. L'intelligence est éveillée quand elle pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Tant que vous n'avez pas posé la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» votre intelligence est marmotte. Elle continue de dormir. Tandis que si vous piquez votre intelligence et la piquez bien, « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Alors à ce moment-là, vous écrivez « être » de cette manière-là. C'est l'être, c'est pas Dieu. lui-même se révèle. Oui. Alors, l'être reste l'horizon de l'homme. L'horizon de l'homme. Alors, on comprend la question posée ici. La manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être et l'instance extatique. Mais c'est contradictoire. Hein? Instance, c'est la substance. Instance, on est en soi. On est en soi. On se stabilise en soi. Extatique, on est hors de soi. Donc l'instance extatique dans la vérité de l'être. Dans la splendeur de l'être, dans la vérité de l'être. En déterminant ainsi l'essence de l'homme, Heidegger ne veut pas rejeter les interprétations de l'homme comme animal raisonnable, comme personne, comme être spirituel, doué d'une âme et d'un corps, mais il veut montrer que ces interprétations humaines, que ces interprétations humanistes, qui sont de fait les plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme, n'expérimentent pas encore la dignité propre de l'homme. Mais la dignité propre de l'homme est super personne. En ce sens que Heidegger est contre l'humanisme, mais s'il pense contre l'humanisme, c'est parce que l'humanisme ne se situe pas assez haut. L'humanitas de l'homme. Alors il le dit en latin, l'humanitas de l'homme. Il faut situer l'homme au-delà de l'humanité. Vous comprenez? Le surhomme. C'est un peu ça, moi. Depuis Nietzsche, j'ai toujours cette idée du surhomme. Parce que Nietzsche, en disant ça, a touché quelque chose qu'on sent. On sent, il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est la personne? Bien, l'homme qui touche l'être et qui montre d'une certaine manière l'être. Alors je vous cite ce passage. La grandeur essentielle de l'homme ne repose assurément pas en ce qu'il est la substance de l'étant comme sujet de celui-ci pour dissoudre dans la trop célèbre objectivité. En tant que dépositaire de la puissance de l'être, l'être étant de l'étant. L'homme est bien plutôt jeté par l'être lui-même dans la vérité de l'être, afin qu'existant de la sorte, il veille sur la vérité de l'être, pour quand la lumière de l'être est apparaissent comme l'étang qu'il est, l'homme est le berger de l'être. C'est vraiment l'être de la personne que Heidegger cherche. Cet être qui a été oublié, car on ne s'est intéressé qu'aux plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme, l'esprit. Or, ces plus hautes déterminations n'ont plus de véritable signification. Si l'être de l'homme est oublié, la vérité ultime de cet étang unique qu'est l'homme, c'est son être propre, c'est d'être jeté Qu'est-ce que c'est que l'être de l'homme? Qu'est-ce que c'est que la signification profonde du « je suis » Nous commencerons par le « je suis ». C'est ça l'intérêt. Être et je. Je et être. Comment l'être est noyé dans le jeu, comment le jeu est noyé dans l'être, si vous aimez bien ce moment. On a séparé les deux. On a séparé les deux. Par peur de Descartes, par peur de la psychologie, par peur d'une quantité de choses. On a séparé les deux. On a considéré que l'être, ah, il devait être absolument anonyme. Je suis, est-ce que ça me donne une connaissance ultime de...